Transformée pour, et vous allez voir, elle est vraiment d'actualité, même 2000 ans après. Et j'espère que vous aimerez cette prière, parce que c'est une prière qui, lorsqu'elle a été dite par tous les disciples du Christ et ses apôtres réunis, l'Esprit Saint est descendu en eux et il les a remplis. Donc maintenant, je vais faire la même prière. J'aurais voulu la faire en araméen, mais malheureusement, vous ne la comprenez pas parce qu'ils l'ont fait en araméen. Je vais vous faire juste la première partie en araméen. Je traduirai le reste en français pour que vous puissiez rentrer dans cette prière. Et que vous priez avec moi pour la Syrie, pour la France, pour le monde. Ce monde qui est devenu fou, ce monde parce qu'il s'est détourné de son Dieu, comme ils l'ont fait dans le passé, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Donc on va demander aujourd'hui, est-ce que l'Esprit Saint descend au milieu de nous, en nous, et que par la suite se répande sur la ville d'Orléans et dans le monde entier. Le Seigneur, il le peut, pour notre imagination, cela paraît impossible, mais pour lui, rien n'est impossible. Alors, les apôtres, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont élevé leur voix, leur prière vers le Seigneur. Et l'acte des apôtres dit, « Arim kolehu nilwa faloho, wema mori, atu aloho da'bat tishmayo arro yammeo kund izbuhu. » Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, les eaux et tout ce qui est en nous. C'est toi qui as parlé par la bouche, par l'Esprit Saint de David, ton serviteur. Pourquoi les peuples raisonnent alors que les nations pensent en vain? Dans ce pays qui est la sienne. Vraiment, ils se sont élevés des rois de la terre. et les puissances sont entendues comme une contre le Seigneur et son Christ en Syrie et dans le monde. Ils sont vraiment rassemblés dans ce pays contre le Saint, ton Fils, que toi tu es en moi, pour aller contre ta volonté aimante de Père. Aussi, Seigneur, regardez-vous à l'immense destruction et l'intimidation faite à ton peuple, et donne à tes serviteurs en Syrie, ici en France et dans le monde entier, de proclamer ta parole avec courage et abnégation. Seigneur, mais avant tout, étends tes saintes mains, pour que des signes, des grandeurs et des miracles nous accompagnent au sang et au sein de ton Fils Jésus. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous présenter très brièvement Ephrem Yacoub, qui nous vient de Bordeaux. Ephrem Yacoub vient de Mésopotamie. Sa famille vient de Mésopotamie. Et en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, voilà sa patrie. Entre le Tigre et l'Euphrate, il y avait une ville qui s'appelait Ur, ou Our. C'est là où était né Abraham. Abraham est le père de tous les croyants. Est-ce que vous êtes croyants ? Alors on peut dire que nous venons tous de cette région, puisque vraiment notre père vient de cette région. Donc là, on va avoir la bénédiction d'avoir quelqu'un qui vient de cette région de Mésopotamie. Il est né en 1962 à Alep et il a vécu pendant 20 ans en Mésopotamie. Il est arrivé en 1982 en France où il a fait des études, notamment de médecine, où il est ressorti avec un DESS de neurosciences. Et donc il va nous parler de neurosciences toute la soirée. Non. Non, pas du tout. Il est là pour nous parler de notre père, mais de notre père en araméen, parce que c'est un locuteur de cette belle langue qu'est l'araméen, la langue de Jésus. C'est un locuteur et un amoureux de cette langue, et il va transmettre cet amour, et il va nous parler du notre père tel qu'on peut le comprendre lorsqu'il est prononcé dans la langue de Jésus. Et vous verrez au cours de sa présentation que notre intelligence que nous avons mis en Occident au plus haut niveau, eh bien en fait, il faut arriver à dépasser l'intelligence. Il va nous faire dépasser l'intelligence par ce que nous avons de plus profond en nous, c'est-à-dire notre cœur qui dépasse largement l'intelligence. Et c'est par cette prière en araméen qui va nous faire ce passage-là. Voilà, donc il est venu ici en mars, si je ne me trompe pas, dans le premier semestre 2016. Je n'ai pas pu être présent. Certains d'entre vous étaient là. Ils nous avaient déjà ébloui le cœur avec la présentation des béatitudes. On peut l'entendre sur le site de aucentrelalouange.com. Voilà. Et j'annonce aussi qu'à la fin de cette soirée, il y aura des sacs à la sortie pour une offrande. Et cette offrande, Ephrem Yacoub m'a dit, ça partira tout en Syrie. Donc si vous avez, ne mettez pas seulement 1 €, on est bien d'accord. Il y a un besoin qui est vraiment supérieur à cela. Donc, mettez sous forme de papier, soit des billets, soit des chèques. Les chèques, vous les mettez à Saint-Vincent de Paul. Facile, Saint-Vincent de Paul. SVP, Saint-Vincent de Paul. Voilà. Donc, si vous voulez faire des chèques, eh bien, la totalité de ce qui sera mis dans les sacs sera donné en offrande par Ephrem Yacoub aux Syriens et notamment à la veuve de Sarepta. Est-ce que quelqu'un connaît la veuve de Sarepta? Ouais. Bon ben voilà, j'en dis pas plus.
Merci.
Merci Ephrem.
Merci. Bonsoir frères et sœurs. J'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui, j'arriverai à vous faire entrer dans cette belle langue que notre Seigneur a parlé il y a 2000 ans. C'était volontaire que le Seigneur parle l'araméen, parce que c'est aussi, comme a dit mon frère tout de suite, c'est la langue d'Abraham. Abraham est parti de Ur en Chaldée où on parlait l'araméen, ou une forme d'araméen qui est très ressemblante avec celle qui existait à l'époque de Jésus à Jérusalem. Pour vous faire court l'histoire, pour pouvoir entrer par la suite dans cette langue, il faut savoir qu'Abraham part de Ur en Chaldée et il va traverser toute la Mésopotamie d'en bas en haut et il va atterrir en haut de la Mésopotamie dans une ville qui s'appelle Haran. Il vivra quelques années avec son père. Par la suite, il ira vers la Palestine et il aura comme enfant Isaac qui se mariera avec une Mésopotamienne qui s'appelle Rebecca. Il ira la chercher en Mésopotamie. Puis Jacob, qui ira lui aussi se marier avec Rachel et Léa en Mésopotamie. Ce qui fait que c'est un peuple mésopotamien, c'est un peuple qui parle l'araméen, qui va se retrouver exilé en Égypte. Et puis en Égypte, cette langue mésopotamienne va se modifier très très légèrement et elle deviendra la langue hébreuse. Donc, par la suite, le Seigneur a voulu que les Israéliens parlent l'araméen pour qu'ils puissent leur transmettre l'enseignement dans la langue de leur père. Donc ils vont être déportés par Nabucodonosor, un Mésopotamien de Babylone. Il va les amener de nouveau pas loin de Ur en Chaldée et là ils vont apprendre l'araméen. Et quand le roi Darius va les libérer, ils vont revenir en Israël en ayant oublié l'hébreu. Et sur ce, le Christ arrivera. Et donc il va leur enseigner, il va faire tout son enseignement en araméen, parce que les mots ont des sens. Chaque mot a plusieurs sens, et en particulier a un sens avec le salut. C'est pour ça qu'il a voulu que l'enseignement se fasse en araméen. Déjà, si je vous disais que le mot « créer » et le mot « fils » est le même mot en araméen. Donc la création ne se fait pas en dehors du fils, elle se fait dans le fils et en le fils. Lorsqu'on va regarder les premiers mots, donc si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est justement parce que vous n'avez pas cette connaissance de la langue araméenne et je voudrais vous faire donc rentrer dans cette langue aussi pour sentir chaque mot de cette langue, chaque mot que le Seigneur a prononcé. On voit par exemple dans l'Écriture plusieurs endroits où le Seigneur insiste sur la connaissance. Il dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Saint Paul dans Timothée, dans sa lettre à Timothée, il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité ». C'est quoi la vérité? Quelle vérité? La seule vérité qui est importante pour Dieu, c'est la possibilité de retourner chez lui. C'est la seule vérité. C'est pour ça que le Christ est venu, pour vous ramener chez son Père, pour vous ramener chez vous, parce que vous êtes exilé sur cette terre et que vous souffrez. Mais le retour vers le Père ne se fera pas sans votre volonté. Il faut que vous consentiez à retourner. Et pour consentir à retourner aller quelque part, il faut que vous connaissiez ce quelque part. Vous ne pourrez pas aller ou vouloir aller quelque part si vous n'avez jamais entendu parler. Donc, l'Écriture nous enseigne c'est quoi le royaume du Père, c'est quoi le royaume de Dieu. Donc, l'Écriture commence par un verset extraordinaire, enfin par un passage extraordinaire, par un mot extraordinaire en araméen, il est le même aussi en hébreu, qui dit Brichis, Bro aloho is shnayo uitharo, warohu sitwa ou boa, ou hoshuko al afai tumo, ou rohe daloho mrafoa al afai mayo, ou mar aloho nehwe nohro, wahwo nohro. Je vous le traduis, vous l'avez vu aussi. Il dit, c'est étonnant, c'est extra, c'est inversé, enfin c'est un passage étonnant. Comment Dieu crée quelque chose qui est désolé et désordonné? C'est ce qui est marqué dans l'Écriture. Et l'Esprit de Dieu mouvait ou volait, en araméen, mro hefwa, battait de l'aile sur l'eau. C'est étonnant. Les deux mots en araméen, désolé et désordonné, veulent dire aussi désolé et désorienté. La terre était désorientée. Elle n'était pas orientée dans la bonne direction. Et l'Esprit de Dieu ne voulait que la faire orienter. On va comprendre ce verset. Beaucoup de gens pensent qu'il a un rapport avec la création. Oui, il a un rapport avec la création. Et vous allez voir comment. Et c'était le premier jour. Et Dieu a trouvé ce premier jour beau. Parce qu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis on a eu les autres jours, le second jour, le troisième jour, le quatrième et le cinquième, puis le sixième jour, le jour le plus important pour Dieu, qui était la création immaculée, la création de l'homme et l'instauration du mariage. Et Dieu verra à la fin de cette journée du sixième jour que tout ce qu'il a créé était très beau. Et en araméen, très beau, se dit top shafir. Ça veut dire bien beau. Bien, parce que c'est Dieu, ça vient de Dieu, et la beauté est un reflet de Dieu sur l'homme. Et on va voir tout à l'heure comment ce reflet s'est perdu et comment Jésus est venu pour nous le faire refléter. Nous voyons d'abord la création d'Adam. Dans Genèse 2, il y a deux récits de la création. Il y a le récit 1 en 6 jours. Puis le septième jour, Dieu se reposa. C'est très important de savoir que Dieu s'est reposé au septième jour. Et vous avez après un second récit, la création, où il parle un peu plus de l'homme et il dit qu'une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc la terre était humide. Et à partir de là, Dieu modela l'homme à partir de la poussière de la terre. Et l'homme n'était pas vivant. Pour qu'il devienne vivant, il va lui insuffler son esprit. Et l'homme devient vivant parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. Et voilà. Ensuite, à mon avis, la femme fut créée dans ce chapitre 2. Elle ne s'appelait pas Ève, elle s'appellera Ève après la chute. Elle s'appelait dans chapitre 2 Atso, un araméen qui veut dire l'équivalente de l'homme. Il n'y avait pas de femme et d'homme. Il y avait deux personnes qui étaient de sexe différent, mais qui étaient équivalents. Il n'y avait pas cette notion de supériorité ou d'infériorité. Il y avait pas cette notion de deux êtres qui étaient destinés à fructifier la terre et à faire des humains. Et qui, ces deux personnes équivalentes. On ne connaît pas la façon dont cela allait se produire, mais on sait que dans le chapitre 2, la femme n'est pas nommée. Elle est dite Atso en araméen. Atso veut dire mon moi-même ou mon équivalent. Elle était le moi-même de Adam. Elle était son lui-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dira à la fin du chapitre 2 que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et les deux deviennent un seul. Donc ils étaient un seul. Il n'y avait pas deux êtres. Il y avait un être qui étaient deux personnes, en fait, un peu comme la Sainte Trinité qui sont trois, mais ils étaient équivalents. Et puis, il s'est passé quelque chose de dramatique, d'extraordinaire. Le Seigneur avait dit à nos deux premiers parents, vous connaissez l'histoire, de tous les arbres du paradis, vous mangerez. Tous sans exception. C'est quand même immense, il devait y avoir des millions et des millions et des millions d'arbres. Un seul, vous ne touchez pas. Quand vous toucherez, vous mourrez. poussé par le démon. Enfin, c'est une expérience particulière avec le démon. Nos deux premiers parents ont allé vers l'infini moins un, en fait. Ils sont allés vers cet arbre-là. Et ils ont touché, et la mort les a envahis. À cet instant-là, la mort est rentrée dans nos deux premiers parents. Regardez le récit, il est très précis, il dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, donc après la chute, et lui dit « Où es-tu ? Où es-tu par rapport à moi ? Où es-tu ? Qu'es-tu devenu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Il avait peur, c'est la première fois que la peur rentre dans l'homme. Parce que justement, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. En plus, il se cache parce qu'il est laid. C'est pas parce qu'il est nu, parce qu'il est laid. Et il n'est pas beau. Le péché nous rend laid. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Que tu es laid. Et là, il va accuser Dieu. Il va lui dire, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a poussé à faire ça. Il accuse en fait Dieu d'avoir amené cet acte. Donc il y a une accusation de Dieu. La femme va accuser aussi une des créations de Dieu. C'est elle qui l'a fait. Donc en fait, il porte l'accusation sur Dieu. Non seulement ils ne font pas un retour en arrière, une pénitence, mais ils vont accuser Dieu. D'abord, ils vont enfreindre plusieurs commandements de Dieu. Et on va voir comment Jésus va vouloir rétablir ça à travers son enseignement et en particulier à travers notre Père. On voit qu'après après la descente, il y a eu plein d'événements qui sont produits dans la vie de l'humanité. Donc il y a eu Adam, il y a eu Caïn qui a tué Abel. Il y a eu le déluge à cause du péché des hommes. Les hommes étaient devenus trop charnels. Il y a eu la babylisation du monde. Donc le monde était devenu, jusqu'à Hérode le Grand, un monde qui ne se comprend pas. C'était un monde de guerre, un peu comme aujourd'hui. On ne se comprend plus. Aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un, vous remarquez qu'il ne vous comprend pas. Vous parlez la même langue, mais vous ne vous comprenez pas. Et c'est ce qui s'est passé. À travers tous ces siècles de séparation avec Dieu, le monde est devenu une immense tour de Babel, au point qu'Hérode le Grand a tué ses propres enfants par peur qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils fassent un coup d'État contre lui. Dans ces conditions-là, le Christ va venir. Maintenant, on va relire ce premier passage de l'Évangile. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre fut désolée et désorientée. Voilà l'humanité à quelques secondes du début de l'enseignement de Jésus. Elle fut désolée et désorientée. Elle n'était plus orientée vers Dieu. Elle était orientée vers autre chose. Et dans ces conditions, Dieu va venir parmi nous. Et on voit que, vous voyez, regardez, ces trois lignes sont extraordinaires, parce qu'il dit Brishit, Bro Aloho, Bro, comme j'avais dit le mot Bro, fils et créé, c'est le même. Dieu crée. En fait, il recrée. La terre fut désolée et désorientée, et les ténèbres fussent sur les désordres. C'est-à-dire, déjà la terre était désordonnée et désorientée, et les ténèbres sont venues rajouter une couche pour empêcher les hommes de percevoir la lumière. Mais Dieu est beaucoup plus fort que les ténèbres, et il va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et on va voir cette lumière, c'est la naissance de Jésus-Christ, l'Emmanuel, qui en araméen veut dire « notre Dieu est avec nous ». En araméen, dans la Bible araméenne, c'est marqué Amena il, Emmanuel, Stargem, Alohan, Aman. Ça veut dire Dieu, notre Dieu est avec nous. C'est notre Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas un Dieu étranger. Jésus est notre Dieu qui est venu parmi les hommes. Et le livre de Saint Matthieu commence par sa première, par ses premiers mots. Il dit Ksobo Diluthe Diesho Mshiho Breh David Breh d'Abraham. Le livre, le manuel de la naissance, de sa naissance de Jésus-Christ. La Bible est un manuel qui vous permet de faire naître Jésus en vous et le faire grandir. C'est un manuel. C'est pour ça qu'il commence par dire le livre de la naissance. En français, on dit généalogie. Non, lui, il dit Ksobo. Ksobo, c'est le livre de la naissance de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David, David en araméen veut dire le bien-aimé. Et Abraham veut dire le père spirituel des hommes. Donc il est fils de David et fils d'Abraham dans le corps, mais il est fils du bien-aimé, le Père, notre Père au ciel. Déjà d'entrée, Saint Matthieu marquera le point sur l'amour, parce qu'il a rattaché Jésus à David et à Abraham, pour nous faire comprendre qu'il y a de l'amour et de la paternité. C'est discret, c'est juste quelques mots. Et il nous lance dans son évangile pour nous conduire du premier mot jusqu'au dernier mot vers la sainteté. Nous voyons ici quelques versets de comment Saint Matthieu va mettre en place son enseignement. Il va commencer tout d'abord par la naissance de Jésus, sa généalogie, et puis à la fin il dira « Notre Dieu est avec nous ». Vous voyez bien ? Puis après, aussitôt après, il va nous parler de l'arrivée des mages adorés, le Messie, et ces mages-là sont les représentants des nations. Le Messie est bien né à Jérusalem, mais les premiers qui sont venus adorer le Messie sont les rois des nations ou des hommes des nations. Bon, le mot gouche en araméen veut dire palper, explorer, toucher. Et donc, il y a cinq mots qui vont nous faire comprendre que ces rois mages qui sont partis de Mésopotamie, donc encore la Mésopotamie, et qui ont parcouru exactement, pratiquement le même trajet qu'Abraham pour venir se poser aux pieds de Jésus. Et on voit qu'à l'aller, ils étaient guidés par une étoile, puis au retour, ils ont été guidés par un ange, donc ils sont convertis aux pieds de Jésus, et ils vont changer leur rapport avec Dieu. Ils ne sont plus dans les astres, ils sont avec Dieu. Et c'est l'ange qui leur apparaît, qui va les guider pour revenir vers les terres où ils sont venus. Et ils avaient commencé déjà en Mésopotamie à cette époque-là à prêcher la naissance du Messie. Nous voyons dans le chapitre 3 de Saint Matthieu le baptême de Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce baptême de Jésus? On voit l'Esprit Saint, le Fils et le Père, ce qu'on appelle la théophanie, l'apparition de Dieu, à travers la voix de Dieu, à travers la colombe qui renvoie à l'Esprit Saint. Et cette colombe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bat de l'aile sur l'eau. On revient aux trois premières lignes qu'on avait lues dans le verset 1 de la Genèse. On parlait que l'Esprit de Dieu volait sur l'eau. C'est l'eau du baptême. Donc cet esprit... Vous voulez que j'arrête un peu? Parce que je vois perturber avec le...
Je suis désolé.
C'est pas grave. Est-ce que vous suivez? Voilà. Donc voilà. Donc on comprend maintenant ce battement d'ailes sur cette terre désolée et désorientée est reprise par Matthieu et il dit Lorsqu'il fut baptisé, Jésus aussitôt monté de l'eau, le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe, donc elle, avec les battements d'ailes, voler, et elle est venue, donc elle est venue se joindre à l'eau et se poser sur Jésus. Jésus n'avait pas besoin de se baptiser, il n'était pas pécheur. Il n'avait pas en lui le péché originel. Il s'est fait baptiser pour porter nos péchés. Parce que des Juifs avant venaient dans le Jourdain, se laver de leurs péchés, ce qui fait que tous les péchés tombaient dans l'eau, et c'est un symbole, et Jésus est venu dans l'eau du Jourdain porter le péché du monde. Et la colombe est venue sur cette terre désolée et désorientée, qui sont nos péchés, qui sont les hommes, et elle est venue se poser sur Jésus. Et puis dès que Jésus fut baptisé, il y a eu le combat. Il dit, aussitôt baptisé, le combat commence, annonce de l'événement du royaume des cieux, appel des disciples. Donc on voit dans le chapitre 4 de Matthieu que, aussitôt après le baptême, chapitre 3, Jésus fut conduit par l'Esprit Saint au désert pour être tenté ou pour être mis à l'épreuve par le démon, mais il va le vaincre en utilisant la Bible. À chaque fois, il lui répond, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc le démon utilise l'écriture et Jésus lui répond par l'écriture. Donc on ne peut vaincre le démon que par l'écriture, par la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va se faire avoir à chaque fois. Donc après, donc, il y a l'appel des disciples. Et qu'est-ce qu'il dit ? Jésus il dit, juste avant, « Min hudin shari yeshu al-makrezu » Il dit, à partir du moment où il fut baptisé, où il est descendu parmi son peuple, il va dire tout de suite, repentez-vous, le royaume des cieux est tout proche. Il va appeler les disciples, il va tourner autour de Capharnaüm. Et il va appeler les disciples, et les disciples vont tout abandonner, et ils vont le suivre. Et il dit, l'Écriture, il dit, donc les disciples ont abandonné les barques, et ils sont allés derrière lui, et Jésus tournait dans toute la Galilée, et il enseignait dans leur synagogue, c'est extraordinaire, il ne dit pas dans nos synagogues, il parle de leur synagogue, ou sa barouas barto de Malkuto. C'est-à-dire qu'en fait, il était venu annoncer d'abord au peuple d'Israël le retour au royaume. C'est pour ça, Matthieu dira, il enseignait dans leur synagogue pour marquer le coup que d'abord, eux, les Israéliens, sont fus appelés au salut. Et après, il dit ici, toutes ces informations, toutes ces bonnes nouvelles de Jésus sont répandues à travers partout, et en particulier en Syrie, il dit « Obkulo Suria » en Syrie, et on lui amenait toutes sortes de maladies, et il les guérissait, et derrière lui a marché un peuple immense, depuis la Galilée, la Décapole, de Jérusalem, et au-delà du Jourdain, ça veut dire de toute la terre, ont marché derrière Jésus. Et là donc, Jésus va arriver, et il va alphabétiser son peuple. Il faut, son peuple qui est désorienté et difforme, il va l'alphabétiser et il va commencer par ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc il va amener son troupeau et il va aller sur la montagne. Et là, sur la montagne, il va les enseigner, en particulier notre Père. Mais il n'enseigne pas tout de suite. Il ne commence pas tout de suite par notre Père. Il va d'abord commencer par un enseignement long. Il va arriver, au bout d'un moment de son enseignement, au Notre Père. Donc, l'évangéliste Matthieu nous dira comme ça, c'est vraiment un chant. Je vais vous le faire un peu mélodieux. Dans les églises, on avait tendance à mélodier, à psalmodier l'évangile. Et là, il va commencer le premier mot de son enseignement, c'est Tob. Je suis là pour vous ramener à la patrie, au Tob Shafir, les Immaculés du sixième jour. Je suis là pour vous ramener à votre état d'immaculé. Et il va donc égrener toutes les béatitudes. Et les béatitudes, comme vous le savez, sont parlées avec une personne, mais à la troisième personne. En araméen, c'est le mot Tob qui apparaît, c'est Tobayhoun. Tobayhoun, c'est le bien est à eux, ou le bien à eux, le meskine et brouh. Et donc, il va égrener les huit béatitudes, les pauvres, ce qui attend dans l'esprit, ou ce qui se sont dépouillés de tout matériel dans l'esprit, puis les affligés, puis les maquillés, les doux, puis il va égrener les huit béatitudes. Donc je ne vais pas vous les dire, la dernière fois je vous les avais expliquées en long et en large, mais c'est pour vous dire qu'entre le premier béatitude et la huitième, deux fois, on entend le mot « Malkutho Deshmayo », ce qui veut dire « le royaume du ciel ». Donc il y a une annonce claire du royaume du ciel. Et on se rend compte qu'à travers ces béatitudes, c'est une prière, en fait, Jésus intercède auprès de son Père pour obtenir pour nous toutes les nécessaires pour vaincre le démon. On était dans la peur, on a vu qu'Adam avait peur. Il faut casser cette peur. L'objectif de Jésus était de casser cette peur. Et donc, il va leur dire, vous avez le royaume de Dieu, vous serez consolés, vous aurez la bonne terre, vous serez rassasiés, vous aurez la miséricorde sur vous, vous verrez Dieu, vous serez appelés enfants de Dieu. C'est la première fois où le mot « enfant de Dieu » apparaît dans l'Écriture, réellement, dans le sens de naître. Avant, c'est dans le sens de créer. Là, c'est dans le sens de naître. Donc, « Tobayhoun l'Abdaï Shlom », heureux aux artisans de la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Et je vous avais dit que la paix en araméen, il y avait deux mots. Vous avez le mot « Shalom » et le mot « Shlomo ». Et là, Jésus utilisera le second mot, le mot « Shlomo », qui est rattaché au salut. La seule paix que vous devrez rapporter à vos frères, c'est celle du salut. C'est un truc qui se dispute, qui sont des chiffonniers, que vous allez vous mêler de quelque chose qui n'importe pas au salut, vous perdez votre temps. Il faut, et quand ils sont dans le salut, la paix s'installe automatiquement. Mais s'ils ne sont pas dans le salut, vous pouvez apporter toute la paix que vous voulez, ben, il n'y aura pas la paix. La seule paix, c'est celle du salut. Et c'est pour ça, en araméen, ces deux mots sont différents. Il parlera des fois Shalom et des fois Shlomo, mais chaque fois qu'il parlera du salut, il mettra le mot Shlomo. Le mot de Shlomo, Or Shalim, Jérusalem. Le mot de fin, de finalité, l'arrivée chez Dieu. Voilà. Donc à la fin des huit premières béatitudes, il va se tourner vers ses disciples et il va leur dire « Vous avez le bien, si on blesse votre amour. » Donc le onzième verset, c'est la neuvième béatitude. « Vous avez le bien, si on blesse votre amour, si l'on vous expulse et si l'on dit faussement toute parole de mal sur vous à cause de moi, alors réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre salaire est grand dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Donc il nous annonce de suite que ça ne va pas être facile. Ça va être très très compliqué, ça va être très difficile, mais il faut qu'on tient. Aussitôt, après les béatitudes, aussitôt, donc là il fait, c'est une prière d'intercession auprès de son Père pour l'aide qu'on doit avoir. Puis ensuite, on est sur la montagne, hein, c'est-à-dire on n'est plus dans Jérusalem. C'est Jésus a amené tout son monde comme un troupeau, comme un berger qui amène ses brebis, et ils sont quelque part isolés à la montagne. Et il va annoncer Et il va annoncer le retour vers le Père. Mais pour annoncer le retour vers le Père, il va commencer d'abord par obtenir les grâces du Père à travers les béatitudes. Et puis aussitôt après les béatitudes, il va dire, donc là, c'est le texte en araméen, il va dire, là c'est un jeûne, vous ne voyez pas, il va dire Atun Enun. Atun Enun en araméen, c'est la seule langue qui traduit comme ça. Atun Enun, ça veut dire, il dit, ça veut dire c'est vous, eux. C'est vous, eux. Là j'ai fait les béatitudes, je parlais à deux, ils ont le bien, ils ont le bien, ils ont le bien. Les pauvres en esprit, ils ont le bien, les affligés, c'est vous, eux. Et ils devaient le regarder avec des grands yeux. Ils ne comprenaient pas. C'est vous, eux, sont sel de la terre. C'est vous le sel de la terre. C'est vous. C'est une responsabilité qu'il va mettre sur eux. C'est pas une glorification. C'est pas une louange. Même si elle deviendra une louange après. Mais c'est une responsabilité. Il les met dans la responsabilité. C'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez être persécuté, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Donc vous êtes le sel de la terre. Si le sel se délie, par quoi on sale? Si le sel se décompose, on ne pourra plus saler. Après, il va leur dire, vous êtes la lumière du monde. C'est extraordinaire. Il va leur dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et c'est le tout début de l'enseignement. Et il devait se dire, mais on ne comprend pas ce qu'il nous dit, en fait. Il vient de nous dire, il nous parle de perception, et là, il nous dit, vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. En fait, on est sel dans l'unité. Si on n'est pas uni, on ne peut pas être sel. Là, il parle de l'unité. C'est pourquoi notre Père sera une prière d'unité. Ce n'est pas une prière individuelle. On ne dit pas « mon Père qui est aux cieux ». On dit « notre Père qui est aux cieux ». C'est une prière d'unité. Le sel, il n'est sel que s'il est nombreux. Je veux dire, si un grain de sel ne fera rien. Et en plus, si ce grain-là, même s'il se divise en deux atomes, sodium et chlore, c'est plus du sel. Voilà. On est lumière du monde en tant que sel. Le sel, vous savez, reflète la lumière. La véritable lumière, c'est Jésus. C'est pas nous. C'est lui la lumière du monde. Que la lumière soit et la lumière fut, c'est Jésus-Christ. Et donc, là, on voit qu'il nous met dans la responsabilité d'être sel, d'être unis, et de refléter la lumière de son la lumière de l'agneau de Dieu, du Messie. Et il va dire pour la première fois dans l'Évangile, donc dans le chapitre 5, verset 16, Hauchanu nanhan horchou nokdom neinoshi nehzun abdekun tobe unashbuhun labuhun bashmayo. Ainsi que votre lumière brille devant les enfants d'hommes, pour qu'ils voient vos bons actes et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. C'est la première fois que le mot Père qui est aux cieux apparaît après avoir dit vous êtes le sel de la terre et vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Par la suite, nous voyons tout l'enseignement de Jésus qui va commencer. Et il va commencer à leur dire, il a été dit aux anciens, aux premiers, ne tue pas, parce que Adam et Ève, ils ont commis un meurtre. Eux qui étaient éternels, ils se sont tués mutuellement. Donc il va dire l'autertol, c'est-à-dire ne tue pas. Et il a été dit aux anciens, ne tue pas, mais moi si je vous dis, moi je vous dis. Donc c'est pour ça que quand vous êtes dans notre Père, il faut que vous ayez ça à l'esprit. Moi je vous le dis, c'est lui qui se met en colère contre son frère sans obtenir une réparation. C'est-à-dire si on se met contre son frère juste pour la colère, même si on a une raison, même si on a une raison de se mettre en colère contre lui, et qu'on va se mettre en colère contre lui, c'est pas bon. Il faut que votre colère amène quelque chose, amène une amélioration. C'est pour ça qu'il dira, moi je vous dis, c'est lui qui dit à son frère, il rit, c'est lui qui se met en colère contre son frère, sans obtenir une amélioration, c'est pas la peine. Si vous allez cogner sur votre frère et commencer à l'engueuler et que vous savez qu'il ne va pas changer, ça ne sert à rien. Si vous pensez que vous allez obtenir réparation, faites-le. Voilà le premier enseignement de Jésus. C'est son premier enseignement, c'est de ne pas se mettre en colère si on n'obtient pas, avec notre colère, une réparation, une amélioration de la personne. Il parle de son frère. Voilà. Après, il va égrener tout ça. Puis le second, il va dire, donc le numéro 2, Shmaton de Thimar Lotegur. Vous avez entendu dire, alors en français, ils ont traduit, ne commet pas d'adultère, en araméen, le mot Tegur veut dire ne tournoie pas, ne perversez pas, ne commercez pas. Ne commercez pas avec le démon. C'est ce qu'ils ont fait nos deux premiers parents. Ils ont commercé avec le démon, ils ont négocié avec lui la pomme, enfin, ou le fruit. Donc tout de suite, il dit, ne commercez pas. Ne commercez pas, soyez intègre avec le démon. Troisième, il va dire, ne mens pas. C'est aussi, quelque part, le péché d'Adam et de sa femme Ève qui ont mis la faute sur Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a... Oui, c'est un mensonge. Donc, il dit, ne mens pas, que votre parole soit oui, oui ou non, non. Voilà. Et on va rentrer doucement dans notre Père. Le cinquième, il dit, vous avez entendu dire, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne vous mettez pas debout devant les querelles. Non seulement les querelles, ne vous mettez pas debout devant les querelles, restez assis. S'il y a des querelles, restez assis, ça ne sert à rien. Ils vous ont dit œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis non. Ne vous mettez pas debout devant les querelles. Si on te frappe sur ta joue droite, on aussi la gauche, etc., etc. Donc, là, Jésus nous fait lever doucement de l'abîme de la mort. Ne tue pas, ne commerce pas, ne mens pas. Et on monte. Et on est à la cinquième, on est déjà un peu plus haut. La cinquième, on arrive. Vous avez entendu dire, au premier, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, en araméen, c'est très bon. On nous dit, Omar no lochoun, ahab el ba'al bebe lochoun, ou barer el man loyet lochoun, ou abad el shafir el man sonne lochoun, ou salaw al elen el dobrin lochoun, ou bqatiro, ou retfin lochoun, ay kan el dohoun, bnaou, dabouhoun, bashmaï. Ça veut dire, vous connaissez, bénissez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous conduisent enchaînés, et ceux qui vous persécutent. C'est de cette sorte-là que vous deviendriez des enfants de votre Père qui est aux cieux. Donc on rentre dans notre Père. On passe, et là on est déjà un peu plus haut. Il y a l'amour qui apparaît. Et on est passé du meurtre, et on monte, on arrive à un degré où Jésus commence à enseigner l'amour, et à la fin, il dit soyez ainsi parfaits là où votre Père qui est aux cieux est parfait. Quand vous aimez vos ennemis, vous devenez parfait. Là, Jésus ira à la sixième, au sixième commandement, et il va dire, Il va commencer à leur parler de charité, de faire l'aumône. Vous voyez, on est très très loin, on était dans le meurtre, dans l'adultère, dans le mensonge. On est passé doucement, doucement. Et là, il nous amène à aimer l'ennemi. Et au sixième commandement, il va dire « Hour din b'zedatroun, ou le tabou de meurtre, qdom b'neyno osho » Ne faites pas votre aumône devant les enfants d'hommes pour que vous soyez vus d'eux. Faites votre aumône dans la discrétion la plus totale, pour que votre gauche ne sache pas ce que fait votre droite. Alors vous avez tendance à l'époque à venir jeter l'aumône. Alors ils faisaient comme ça aussi, ils sonnaient leur truc avant de jeter, pour montrer. Et des fois ils annonçaient même, un tel a jeté 3000, un tel a jeté 2000. Et ils annonçaient même l'aumône qui était faite, et d'un coup il leur dit que votre gauche ne sache pas ce qu'est fait votre droite. On est au sommet de l'enseignement du Seigneur. On est tout au sommet de son enseignement, et là, il va nous amener au Notre Père. Et il va dire, Modum Saleat, quand toi tu vas prier, c'est la septième. Et on est au septième jour de la création. C'est dans le septième jour de la création que l'homme a commis le péché contre Dieu. C'est dans le repos de Dieu que l'homme a commis le péché. Et c'est dans le repos de Dieu que Dieu ramènera l'homme au bercail. D'ailleurs, souvent on dit, il guérissait le jour du Shabbat. Il guérissait le jour du sabbat. Il guérissait le jour du sabbat. C'est pour nous montrer que dans le repos de Dieu, on a commis le péché. Dieu s'est mis au travail, non, de son repos. En fait, son jour de repos, il a travaillé pour nous ramener chez lui. Regardez quel amour. Vous, si on vous appelle un dimanche pour retourner à l'usine, je pense que vous n'allez pas être content. Lui, avec tout l'amour qu'il a pour nous, il est descendu pour nous ramener au bercail, au royaume du Père. Donc, vous pensez que la charité, je reviens juste un peu en arrière, que la charité c'est juste de donner de l'aumône. En réalité, le mot zedak en araméen, zedak, il a une dizaine de sens, charité, justice, franchise, vérité, existence. Donc en fait, la charité est axée surtout, sur d'apporter à votre frère le salut. Si vous donnez à quelqu'un un appartement, une maison, ce que vous voulez, et que vous ne lui avez pas apporté le salut, vous ne lui avez pas apporté de vivre avec Jésus-Christ, c'est rien. Vous n'avez rien fait. Il peut vivre dans un château, mais s'il n'a pas Jésus, il est malheureux. Toute personne qui n'a pas le Seigneur dans son cœur est malheureuse. C'est pourquoi le mot zedak en araméen renvoie à toute une variété de mots qui est rattaché au salut. Faites la charité, mais d'abord le salut. Ce n'est pas par le pain seulement que vive l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain seul ne fait pas vivre l'homme, le matériel seul. Donc dans ces conditions, il va nous amener au Notre Père. Et il va dire, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. En araméen, nos baybafé, ça veut dire les preneurs d'apparence. Ne soyez pas preneurs d'apparence. Le Seigneur connaît votre cœur, il regarde dans votre cœur. Ce n'est pas la peine de faire le pieux ou de faire si faites du fond de votre cœur uniquement, sans hypocrisie. Voilà, donc après il va dire, c'est pas important, qu'il vous priez dans les synagogues au premier rang et dans les assemblées, dans les rues, pour apparaître des fils d'hommes. Eux, ils ont reçu leur salaire. Atden et Madame Saléat, Oul. Quand toi tu pries, rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Évidemment, ta chambre, c'est là. Saounor, en araméen, veut dire aussi à l'intérieur de toi-même. Pas forcément isolé, mais à l'intérieur de toi-même, et ferme la porte à tout ce qui est matériel, à tout ce qui vient de l'extérieur qui peut te perturber, qui peut te désorienter. Oriente-toi, oriente ton cœur vers le ciel, vers ton Père qui est aux cieux. Ferme, rentre dans ton saounor, dans ton intérieur, et ferme ta porte. Et au Savaï, il a beaucoup de questions, et prie ton Père dans la cachette, ou à beaucoup de choses de questions, et le Seigneur qui connaît le fond de toi te récompensera. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les païens qui pensent avec beaucoup de mots, on obtient beaucoup de grâce. Votre Père qui est aux cieux, il sait votre besoin. Il sait votre besoin avant même que vous le demandiez. Ce n'est pas la peine de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Et là, on arrive au Notre Père. Et il va dire de la sorte, une fois que vous avez été enseigné de tout ça, une fois que vous avez compris qu'il ne faut pas se mettre en colère contre son frère, qu'il ne faut pas tournoyer avec le Seigneur, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas répondre au mal par le mal, dent pour dent et œil pour œil. Il faut aimer vos ennemis, il faut être charitable. Là, vous rentrez dans la prière, vous. Il dit de la sorte, ainsi de la sorte, priez-vous. Abun Bashmayo, et Kadash Ishmoch, Tithé Malkuthor, Nehwe Subyonor, Aikan Bashmayo, Baron, Heblan Lahmut Sukunan Yomono, Washpuklan Hubein Wahtohain, Aikan Odofahnan Shbakil Halbein, Lotalan Nesyono, et le façon de Bisho, et tout le Himalkutho, Hayo, Tishbahto, Laolam, Almi, Amin. Là, je crois que les disciples étaient au sommet de ce qu'ils pouvaient être avec Jésus. Moi, je l'ai dit très mal, mais Jésus l'a dû le dire d'une façon extraordinaire. Donc maintenant, on va comprendre les mots du Notre Père. Le premier mot qui a été utilisé, c'est le mot Abba. Abun, Abun, c'est Abba. Abba à nous. Abba à nous. Abun. En français, on dit notre Père. Abba à nous. C'est la première fois que le peuple d'Israël, ou toute l'assemblée qui était autour de Jésus, qui attendait Abba à nous, Abun. En plus, Abun, c'est une forme enjouée du mot notre Père. C'est comme un enfant qui joue Papoun. C'est sur la même registre, mais Papoun dans le pluriel. Abun. Et il ne comprenait pas comment on peut oser. Déjà, ils avaient du mal à prononcer le nom de Yahvé. Comment on va lui dire Abun? Alors, avec seul l'agneau, seul le rédempteur, seul Jésus-Christ pouvait nous permettre de dire Abba. Il n'y a que lui, parce qu'il a payé pour qu'on puisse dire Abba, Père. Et avec ce mot Abba, nous sommes définitivement investis du titre sublime d'enfant de Dieu, d'enfant du Très-Haut, et frères et sœurs de son agneau. Ce Abba, donc, qui est un Père personnel, chacun de nous. Il est notre Père, mais il est universel. Toutes les nations, tous les enfants des nations sont à partir de ce moment-là invités à reconnaître en Dieu leur Père. Ce Père est à nous et à jamais. Et personne ne pourra nous séparer de son amour. Je pense aussi que c'est le même mot que Adam et son équivalent, Adso, ont dû appeler le Seigneur, Abba, Abun. Et le péché leur a cloué la bouche et ils ne ont plus pu dire Abba. Il a fallu que Jésus descende, que le Messie revienne parmi nous pour qu'on ose de nouveau à dire Abba. Et le second, donc Abba, cela veut dire qu'on doit revenir à la création du sixième jour. Immaculé. L'objectif de notre Père, c'est de nous ramener à la création du sixième jour. C'est pourquoi derrière le mot Abun, aussitôt apparaît le mot Shmayo. Abun et de Bashmayo. Notre Père en français qui est aux cieux. Mais le mot Shmayo, je vous avais dit la dernière fois que c'était la contraction de deux mots qui veulent dire eau et lumière, ou eau et esprit. Le mot ciel en araméen se dit Shmaya, cieux, Shmaya, Shem se dit lumière ou esprit, et Maé se dit eau, donc Shmayo, ça veut dire esprit et eau. Ça vous pensez à quoi, esprit et eau? Au baptême. Donc on est enfant de Dieu par le baptême. Et on est lavé le jour du baptême de notre péché originel. Ce qui nous permet de dire Abba. Abba d'Bashmaï. Le Père, notre Père qui nous a été donné par notre baptême. C'est pour ça, aussitôt après le baptême, Jésus sortit de l'eau, une voix fut entendue qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai retrouvé mon bien, mon amour. » Donc c'est le baptême qui nous amène à être enfants de Dieu. C'est pour ça, le Christ, il utilise tout de suite « Abun et Bashmayo ». Il aurait dû dire « Abun autre chose » parce que notre Père n'est pas seulement au ciel, il est partout. Mais c'est pour nous renvoyer au baptême qu'il a dit Abun et Bashmayo. Et en araméen, vous avez deux lettres. Vous avez le D et le B qui suivent le mot Abun. Le D veut dire appartenance. C'est-à-dire Ephraim de Syrie. Ce D, c'est la même chose. Si je dis Ephraim et Surya, ça veut dire Ephraim de Syrie. Mais le B derrière, c'est en. Donc si je parle d'Ephraim de Psouria, ça veut dire que je suis de Syrie et en Syrie. Non, je ne suis pas de Syrie et en Syrie, je suis Ephraim de Psouria, França. De França. Je suis Ephraim de Syrie, mais en France. Donc c'est notre Père dans le baptême et du ciel. Conjugué, fait exprès. Les deux DB, ils ont mis comme ça exprès pour nous renvoyer au baptême et pour nous renvoyer au ciel. Le mot Shmayo veut dire tantôt nous renvoie au baptême et tantôt nous renvoie au ciel. Abun et Bashmayo, notre Père qu'on l'a eu au baptême mais qui est aux cieux. Donc notre royaume n'est pas sur cette terre-là, il est au ciel. Saint-Pierre dira ici, ça c'est Saint-Pierre qui écrit dans son épître 1, verset 3, il dit Mbarachu Aloho. Donc السبر تحاي ودير ثلثو تقمث حبلو ولو مستنفو لو حميو هود مطيبو لخوم بشمايو بشمايو لمو شمايو أباري أنكور لمو سيل لمو باتم il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ celui par cette tendresse immense nous a fait naître dès le commencement par la résurrection du Jésus-Christ pour une vie éternelle et pour un héritage qui ne périt pas. Cet héritage qui est préparé pour vous au ciel, si vous gardez, vous êtes gardé par la puissance de Dieu et par votre foi pour une vie éternelle qui est préparée d'apparaître dans les temps derniers. Et par cela, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que votre Père vous a préparé, vous a fait naître. Donc on n'est pas né de la poussière, du coup, on est né de Dieu. Par le baptême, on devient enfant de Dieu, on est né de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on peut dire « Abun et Bashmay ». En vérité, ça c'est le petit passage qu'il y a eu entre Jésus et Nicodème, qui est venu le voir, il dit en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de l'eau et de l'esprit, Shmayo, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on est enfant de Dieu, Abun et Bashmayo, le D et le B, veulent dire qu'on est baptisé, on est enfant de Dieu, et on est programmé, on a une destinée qui est le ciel. Le second mot, alors à partir de ce moment-là, notre Père va se décomposer en sept commandements ou sept prières. Prière 1, commandement 1. La prière, c'est nous qui la faisons et le commandement est donné par Jésus. D'accord ? Sanctifiez mon nom. Jésus, il va dire « Sanctifiez mon nom ». D'ailleurs, dans Lévitique 22, 32, il dit « Vous ne profanez pas mon saint nom afin que je sois sanctifié ». Dieu est saint. Donc, c'est étonnant qu'on dise « Nefkadash shmor » que ton nom soit sanctifié. Son nom est saint. Mais sa sanctification de son nom, c'est à travers nous. C'est pour ça, en araméen, on dit « Nefkadash shmor » qui veut dire « Ton nom est sanctifié ». Ton nom est sanctifié par le baptême, par notre baptême et par la croix de Jésus. Qui sommes-nous pour sanctifier un saint ? C'est lui qui est saint. Saint Pierre dira dans son épître, « Soyez saints comme votre Père est saint. » Lo kadishin elohu kadishin bleprun non, elohu kadishin kulhun hofekun soyez saints dans tous vos déplacements comme il est saint celui qui vous a appelé enfant parce qu'il est écrit soyez saints là où moi je suis saint si lui père Korinatul que vous appelez père ou l'être de moi ou ma sabbat et que devant lui il n'y a pas d'hypocrisie et qui donne à chacun selon ses actes. Donc, avec beaucoup de crainte, conduisez-vous dans ces moments d'exil. Parce qu'on est en exil sur cette terre. Parce que vous le savez que ce n'est pas avec de l'argent qu'on a gagné le salut. Alors, cette sainteté, donc, le point important de la sainteté, c'est l'amour. Aimez, soyez purs, soyez bons, parce que vous venez de Dieu. Et que de sa main, il n'est rien sorti de mauvais ou d'impur. Satan a mordu l'homme et il a essayé de démolir le Créateur dans son prodige le plus grand, dans ce qui était le plus semblable à lui. qui était le plus semblable à Dieu, c'était Adam. C'est pour ça Adam, il a eu peur, en fait, parce qu'il ne ressemblait plus à Dieu. Il s'est senti étranger. Après le péché, il s'est senti étranger. Il n'était plus dans la ressemblance de Dieu. Il a vu qu'il n'était pas pareil. Donc il s'est caché. Et Jésus nous invite, dans la sainteté, à ressembler de nouveau à Dieu. Satan est l'homme, car il voit en lui Dieu. Cette ressemblance est encore plus nette lorsque l'homme est baptisé et que dans sa vie de tous les jours, il évite le péché. Et plus vous évitez, si vous êtes baptisé et que vous évitez le péché, Satan vous hait, parce que vous ressemblez de plus en plus à Dieu. Et comme il est Dieu, il va vous haïr, il va essayer de vous démolir. Il va vous essayer de vous faire des pépins. Voilà. Donc regardons ce Père. Ce Père, regardons-le, on va le regarder dans, à travers notre Père, à travers Abba Bashmayo, avec crainte, avec respect, mais avec beaucoup d'amour. Parce qu'on est ses enfants. Abba, à nous et à jamais. Abba, à nous et à jamais. Abba, à nous et à jamais. Priez comme ça, tout le temps. Abba, à nous et à jamais. Et là, vous détachez de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est mondain. Donc, avec un amour reconnaissant du donneur de la vie sur terre et au ciel. La prière numéro 2, commandement numéro 2. Que ta royauté vienne. On dit que ton règne vienne. Là, le mot royauté en araméen, qui dit malkoutho, ou tithé malkouthor, que ta royauté vienne, en fait, c'est une royauté comme une dynastie. Ça veut dire qu'il y a une transmission. La royauté de Dieu, c'est une royauté filiale. C'est une prière et un commandement. Ça veut dire, c'est une prière, nous on demande l'aide à Dieu, mais on doit cheminer vers une royauté. Parce qu'on est des enfants de Dieu et on est appelé à devenir des rois. Parce que les enfants des rois sont des rois. Parce que lui, il est le roi des rois. Donc il lui faut quand même des rois pour qu'il soit des rois des rois. Si on est pécheur et si on n'est pas dans une lignée royale, ben il ne sera pas les rois des rois, il sera le roi. Donc la Bible aura menti. Mais la Bible ne ment pas. Il est le roi des rois parce qu'il y aura beaucoup de petits rois au paradis. Et c'est nous qui sommes appelés à devenir des petits rois. C'est pour ça en araméen on dit Malkouthor, qui veut dire ta royauté, ta dynastie royale, ta filiation royale vienne. La première, Abun Bashmayo Neskada Sheshmor, c'est tout de suite. Il est notre Père et il est sanctifié. C'est ce proche immédiat. Mais là, la royauté, elle est dans le futur. Tithé Malkouthor, c'est un chemin de croix qui va nous amener du baptême au couronnement. D'ailleurs, on verra tout à l'heure comment on peut arriver au couronnement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les apôtres qui le disent. Mais en araméen, on le sent, puisque les mots parlent. Prière 3, commandement 3. Donc c'est Jésus qui nous commande de dire ça. Dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il nous commande à le dire. Mais aussi, c'est un appel à nous de cheminer dans les prières. Ce n'est pas juste faire comme les Hanfés, comme il a dit, comme les païens, qui vont bababababa, des paroles sans signification. Vous cheminez dans vos paroles. Si on a été ferme, ferme, rentre dans ta chambrée et ferme tes portes. Et ton père qui voit, il te récompensera. Donc là, la volonté de Dieu, vous la connaissez tous, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Isaïe dit dans 59:1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas autre chose. Mais on va voir que malgré tout, le salut est présent dans notre Père, dans le mot Père. À partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous avez le salut. Il ne mettrait pas ses enfants dehors. Il ne les mettra pas dehors. Il n'y a aucun père qui mettra ses enfants dehors. Aucun. Le plus pire des enfants, on a envie de le garder. Alors imaginez votre père qui est aux cieux. Mais comme il ne peut pas vivre avec le péché, il nous demande à devenir saints. Le quatrième commandement, ou la quatrième prière, donne le pain de notre besoin journalier. En araméen, heblan, lahmon, et tsunqonan. Tsunqo, ça veut dire je suis là, presque en train de mourir, et il me faut le pain pour vivre. Je suis dans une situation extrêmement délicate, tsunqo, et il me faut le pain. Mais ce pain-là, ce n'est pas le pain de table. Jésus le dira à Satan, ce n'est pas par le pain, vil homme, mais toute parole, seulement vil homme, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Dans Jean 6, 34, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. L'Ahmad Sankonan, ce pain dont nous avons besoin pour atteindre le Père, c'est Jésus-Christ, à travers son don sur la croix. Le baptême nous fait entrevoir, donc le premier mot de l'araméen Shmaïo nous renvoie au baptême, donc le baptême nous fait entrevoir le royaume. Après notre sainteté, notre royauté, notre volonté, le sacrifice de Jésus vont nous aider pour atteindre la croix, et la croix comme une échelle d'escalader pour monter vers le Père. Et soyez sûrs que si le Père voit sur vous le sang de son agneau, ben il va vous aimer automatiquement. Donc portez sur vous le sang de l'agneau, tout le temps. Il a payé pour nous, il a payé. Ne jetez pas, si vous voulez, c'est comme il vous a ouvert un compte en banque et il vous a posé dans cette banque un trésor de salut. Si vous allez le chercher, vous l'avez. C'est parce que vous êtes bon que vous l'avez, c'est parce que vous allez le chercher. Si vous n'allez pas le chercher, ben vous n'allez pas l'avoir. C'est comme moi, des fois, souvent, je dis à des amis, quand je suis avec eux, je dis, moi, j'ai le visa pour aller au royaume du Père. Il est là dans ma poche et dans mon cœur, et personne ne pourra me l'enlever. Mais toi, ton visa, il est où? Tu l'avais aussi, ton visa. Tous les êtres humains ont leur visa. Mais il y en a qui l'ont jeté, qui l'ont déchiré, et ils ne savent pas où il est. Nous avons tous le visa pour retourner chez le Père. Tous. Alors s'il vous plaît, ne déchirez pas votre visa. Ou alors cherchez-le là où il est. Là, le cinquième commandement, ou la cinquième prière, Jésus nous commande de dire « Efface-nous nos dettes. Abba, Abba à nous. » Donc on peut dire ça comme ça. « Notre Père qui es aux cieux. » Que ton nom soit sanctifié, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit, que ta royauté vienne, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Et là aussi, dans la volonté qui est faite, que ta volonté soit faite, Eikan Bashmayo of Baro, ça veut dire sa volonté qui est faite, comme pour nous les baptisés, que ta volonté soit faite aussi pour les non-baptisés. Eikan Bashmayo, le mot Shmayo renvoie au baptême. Donc, que ta volonté soit faite, Eikan Bashmayo of Baro, comme pour nous les baptisés. Comme pour nous les baptisés, Aïkano, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aïkano, Dbashmayo, Of, Baro. Comme pour les baptisés, pour qu'ils soient baptisés. Fais venir au baptême, Seigneur Père, s'il te plaît, dans notre prière comme ça, quand vous êtes là. Notre Père, qu'on a obtenu par notre baptême, au saint nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié tous les jours à travers nos actes et nos paroles. Que ta royauté vienne dans nos cœurs pour qu'on puisse cheminer vers toi et devenir des petits rois dans ton royaume. Que ta volonté soit faite pour nous les baptisés, mais aussi pour que ceux qui ne sont pas baptisés. Donne-nous le pain de nos besoins, notre besoin, le pain de vie. Et efface-nous. Washbuklan. Hobain aikanodof hanan shbaqin l'hayobain. Voilà. Efface-nous nos dettes comme nous effaçons à nos endettés. Nous, on est endettés, on est débiteurs de Dieu. Donc on demande à ce qu'il nous efface nos dettes par la Sainte Croix de Jésus, par la rédemption et par notre pénitence de tous les jours. Et nous, sans raison, on va effacer les dettes des autres. Si quelqu'un nous a fait du mal, ou quelqu'un nous a parlé du mal de nous, ou a mis des bâtons dans nos roues, ben on va leur effacer aussi leurs dettes. Effacer les dettes, c'est ici dans le cœur. Ça veut dire le cœur est pur. C'est pour ça, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont effacé les dettes des autres, Dieu a effacé leurs dettes et ils pourront voir Dieu. Heureux, ceux qui sont purs de cœur, ou ceux qui se purifient de cœur, car ils verront Dieu. Si vous avez de la haine ou des dettes dans vos cœurs, enfin des gens qui sont endettés à vous et que vous les gardez dans votre cœur, vous ne pourrez pas entrevoir Dieu, parce que déjà, pour voir Dieu, il faut voir Dieu dans chaque être humain. Si vous ne voyez pas Dieu dans chaque être humain, quelle qu'il soit sa laideur, pour vous, mais il est aimé de Dieu, même s'il est laid, il est aimé de Dieu. Donc si vous avez des choses contre lui, c'est ça qu'il veut dire le Seigneur, efface-nous nos dettes, comme nous effaçons à nos endettés. Shboklan Hubain, Aikan Dofanan, Shbaqin Lhayobain. Alors on peut aussi mettre abandonner. Abandonnons nos dettes comme nous abandonnons les dettes des autres. On peut mettre aussi pardonner. Mais ils n'ont pas gardé le mot pardonner, parce que si on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, c'est quand même lourd. Pardonner, c'est Dieu qui pardonne. Nous, on efface les dettes. Après, c'est dans les mains de Dieu. Nous, on n'est pas Dieu pour pardonner. C'est pour ça que l'araméen garde « Efface-nous nos dettes comme nous effaçons à nos endettés. » Et aussitôt après, à la fin de l'araméen, c'est la seule phrase que reprend Jésus. Il va dire « Notre Père » et à la fin de « Notre Père », il dira juste ça. « Engir teshbukun labneino shes hulothun » نشبقوا في الخون أبوخون باش ما يو عندي لو تشبقون لبنينو شي وفلو أبوخون باش ما يشبق الخون سخو الخون سخدم vraiment si vraiment vous pardonnez aux fils d'hommes leur folie c'est leur folie en fait un péché c'est une folie une offense faite à vous c'est une folie qu'il vous fait il n'y a pas de raison qu'il vous offense ou qu'il pêche contre vous qu'il fasse du mal qu'il vous renverse ou qu'il vous vole c'est une folie donc il dit si vous vraiment vous effacez aux hommes leur folie Neshbouk, il effacera Oflochoun Abouchoun Bashmal. Il effacera pour vous votre Père qui est aux cieux. Il reprend tout de suite le terme notre Père qui est aux cieux et il le met juste à la fin de notre Père. Il commence par Aboun Bashmal et il finit par Aboun Bashmal. Endin lo teshbukoun, si vous ne pardonnez pas, vous ne effacez pas l'abneinoche, aflo abouchoun, shobek lochoun, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous effacera pas votre folie, vos folies. Parce que le péché, c'est une folie. Si on n'est pas fou, on ne pêche pas. Quelqu'un de raisonnable ne peut pas pécher. Voilà ce qu'il veut nous dire. Le péché, c'est une folie. Les autres, quand ils pêchent contre vous, c'est par folie qu'ils pêchent contre vous. Donc si vous avez atteint, alors ça c'est la prière, c'est ceux qui ont atteint un degré assez haut dans le cheminement avec Dieu. Ceux qui sont au début, ils auront du mal, mais plus on chemine avec Dieu à travers l'écriture, parce qu'il faut vraiment, vraiment apprendre l'écriture par cœur, plus on chemine avec Dieu, plus on va apercevoir que vraiment, les péchés commis contre nous, c'est de la folie. Et que le péché que nous commettons, c'est de la folie aussi. Là, on arrive à la sixième prière qui fait tant de débats depuis que les traductions existent, mais en araméen, le problème est résolu, personne n'en parle. Dans les églises de langue araméenne, personne, mais vraiment personne n'en parle. Soumettre, succomber, entrer. La traduction la plus proche, l'ota'lan el-nesiouno, l'ota'lan el-nesiouno, voilà, trois mots, l'ota'lan el-nesiouno, en français, ne pas nous entrer en la tentation, et j'ai mis tentation avec un T majuscule, c'est très important. Parce qu'en fait, la seule tentation qu'on demande à Dieu à ce qu'on ne soit pas soumis, c'est celle de nos deux premiers parents. C'est perdre Dieu. C'est la seule. Parce que si on se met à perdre Dieu, on est foutu. N'est pas nous entrer à la tentation, c'est cette tentation qui va nous faire perdre. En araméen, le mot « lo ta'lan » c'est au singulier, hein, c'est pas au pluriel. Cette tentation, elle n'est pas plurielle, elle est au singulier. C'est très important le singulier. L'otalan nesiono, ce n'est pas nous entrer en tentation. Et si jamais on y est, ne laisse pas nous surmonter. C'est les deux. Et dans le mot al, l'otalan, al, il y a le mot du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Al, Gabriel, Israël. Oui. C'est par l'aide de Dieu, de Il, Israël, de El, on arrive à éviter la tentation, la seule qui va nous séparer de l'amour du Père. On prie pour celle-là. Parce que les apôtres nous ont appris à être heureux dans les épreuves. D'ailleurs, Saint Jacques ira plus loin. Il dira « Heureux l'homme qui supportera les épreuves, donc les nesiounés, les épreuves, donc ce n'est pas la C'est les tout le temps. Il faut toujours, quand vous voyez épreuve, c'est les. Pas la, pas celle qui est définitive, qui va nous couper. C'est là que Jésus dit, l'otalan nesiono. Laisse pas cette séparation. D'ailleurs, derrière, il dira, vont ensemble, la prière 6 et la prière 7, ou le commandement 6 et le commandement 7, vont ensemble. L'otalan nesiono et l'ofason membijo. Ne nous soumets pas, ou ne nous rentre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça va ensemble. Même si c'est de prière, mais ça va ensemble. C'est un ensemble. C'est celle-là. La tentation qui va nous faire orienter ou désorienter. Hein. La terre était désolée et désorientée. C'est cette désorientation qu'on ne veut pas. Jésus veut nous dire, ne revenez pas à ce que c'était au chapitre 1 de la Genèse. La terre était désolée et désorientée. Et là, il faut prier pour qu'on ne soit pas désolé et désorienté. Qu'on soit toujours orienté vers le Seigneur. Toujours. Des épreuves, on en aura. On en aura tout le temps. Là, je vais partir d'ici là. Demain matin, je vais en avoir plein. D'ailleurs, si vous avez reçu mon cours bien, plus vous aurez reçu mon cours bien, plus j'aurai des épreuves demain. Et plus j'aurai des épreuves demain, plus je dirai, ah, le cours était fructueux, il y a eu des âmes touchées. Voilà. Saint Jacques, il dit, heureux l'homme qui supportera les épreuves, devenu un homme éprouvé, il recevra la couronne de la royauté. La couronne de vie que Dieu a promise à ce qu'il aime. Que nul, lorsqu'il est tenté, me disent, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne saurait être tenté de mal et lui-même ne tente personne. Mais chaque cas est tenté par sa propre convoitise qui l'amorce et l'entraîne. Ensuite, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché enfante la mort. Donc, c'est cette tentation qu'on ne veut pas. C'est qui va entraîner la mort. Mais les tentations dont parle Saint-Pierre et dont parlent les Écritures, Saint Jacques, il dit ici, là, vous voyez, c'est écrit en petit, mais je vais vous lire en araméen. Il dit Yaakoub, donc Yaakoub, c'est-à-dire moi, Jacques, c'est-à-dire c'est moi, Yaakoub. Yaakoub, Abdaou, Dalohu, Wadmoran, Yeshua, Mshiho, La Trasar, Shlobe, Nazre'in, Eba'am, Oshlom. Jacques, son serviteur de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus semées dans les nations, dans les peuples, Shlom, bonjour. C'est-à-dire nous, en fait. On est les 12 tribus semées à travers le monde. Que toute la joie soit pour vous, mes frères, lorsque vous rentrez dans des épreuves variées et nombreuses. Variées et nombreuses. Pas la même tout le temps. Variées. Parce que si c'est la même temps, on va se faire une carapace, on ferme la porte et on ne répond plus à la voisine, donc c'est fini. Là, il nous dit que toute la joie soit pour vous, mes frères, lorsque vous rentrez dans des épreuves variées et nombreuses. Yudain Atingir, vous le savez vraiment, l'examen de votre foi vous enrichit de la patience. Les épreuves nous enrichissent de la patience. Il y a une différence entre nesiono, tentation, parce qu'en araméen, le mot nesiono veut dire épreuve et veut dire tentation. C'est pour ça la traduction, ils ont pris tentation. Vaut mieux prier pour ne pas rentrer à la tentation, mais prier pour avoir des épreuves. Parce que l'épreuve vous enrichit de la patience. Il continue Saint-Jacques à dire, pour elle, la patience, il devient pour elle un acte global. Donc, l'épreuve de la foi vous enrichit de la patience, et l'épreuve de la patience devient pour vous un acte global, afin que vous soyez parfait et complet. Ça veut dire, dans votre vie terrestre, une fois que vous avez dit « Aboun », soyez sûr, à la sortie de votre baptême, le combat commence. Mais ce combat-là, vous allez le gagner. Il n'y a pas de doute. Vous allez le gagner, vous allez le gagner par l'aide de Dieu. Vous allez le gagner. Parce que vous êtes gardé par Dieu. Vous allez le gagner, mais vous allez avoir des épreuves et vous allez chuter, vous allez vous relever, vous allez chuter, vous allez vous relever, vous allez chuter, vous allez vous relever. Après, vous ne chuterez pas. D'un coup, vous avez compris. Ah, celle-là, j'ai l'examen, ça y est, j'ai réussi celle-là. Je ne chuterai plus. Et une deuxième épreuve différente, une troisième épreuve différente, une quatrième, hop, acquise. Donc au cours de votre vie terrestre, vous allez acquérir plein de façons d'éviter les piqûres de Satan. Et ça, c'est à travers les épreuves. C'est pourquoi il dit que toute la joie soit pour vous, mon frère, lorsque vous entrez dans des épreuves variées et nombreuses, l'épreuve de la foi vous enrichit de la patience, et l'épreuve de la patience vous enrichit de la plénitude. Pour que rien ne vous manque. Voilà, il dit pourquoi. Mais si quelqu'un manque, de quoi à votre avis? De la sagesse. Il ne dit pas si quelqu'un manque, non, de la sagesse qu'il demande à Dieu, ce qu'il dit Saint-Jacques. Et Dieu lui donnera avec générosité, mais qu'il ne soit pas envieux à quelqu'un qui a atteint un degré plus haut. C'est-à-dire, il y en a qui sont dans l'épreuve, ils ont atteint un degré plus haut, mais qu'ils ne soient pas envieux de celui-là. Et lui, il aura aussi son chemin à faire. Et avec ça, vous soyez heureux, joyeux, pour une éternité. Vous voyez ? Ne pensez pas, faites une différence majeure entre « nesiouno » en araméen, ça veut dire « tentation » et « nesiouné » épreuve. Donc, les pépins de tous les jours, c'est des épreuves qui nous enrichit et qui nous amène à la vie éternelle. Voilà. Pierre, donc le commandement 6, Pierre dira, donc humilié, donc le premier verset et le second verset, on va dire, on peut le passer, donc sépare-nous du mal, Pierre nous dira, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. C'est pour ça qu'on demande à Dieu de ne pas être dévoré. L'hôte Alain Nessiono n'est pas nous soumettre, ou n'est pas nous faire entrer à la tentation, celle où on va être dévoré. Les épreuves, on les preneurs. Que toute la joie soit pour vos frères quand vous entrez dans des épreuves variées et nombreuses. Parce que l'épreuve vous enrichit de la patience, et la patience vous enrichit de la plénitude. Saint-Pierre reprendra beaucoup, beaucoup d'intermédiaires entre la foi et la plénitude. Vous lirez son épître. Il parle beaucoup aussi d'épreuves. Les épreuves, dans le pluriel. Donc, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ne soyez pas les seuls à dire « Ah, j'ai perdu, oh là là !» Tout le monde. Tout le monde est subi, tous les chrétiens encore plus que les autres, subissent les mêmes épreuves. L'objectif, comme je vous l'ai dit au départ, c'est d'éloigner les hommes de Dieu. Dieu, le démon veut démolir Dieu dans son prodige, dans sa créature la plus belle, qui sommes nous. Donc résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous voyez, perfectionner lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Oui, le mot nesiouno, c'est la tentation où on est dévoré. Mais les épreuves nesiouné, c'est autre chose. C'est pour ça, quand vous direz notre Père la semaine prochaine, demain ou tout à l'heure, pensez tout de suite, de ta nation nous fait pas sombrer, entrer à la tentation, celle où on sera dévoré. Celle-là, c'est la seule où on ne veut pas. Les autres épreuves, on est preneur parce que ça nous enrichit, parce qu'on apprend. C'est comme des étudiants qui sont à l'école ou à la fac, ils apprennent, passer un examen. Voilà. Bon, maintenant on a fini de notre Père. Vous avez une idée globale de notre Père, j'espère. C'est bon ou... Hein? Vous avez des questions? Je n'ai pas compris. Un aramaire? Oui, je vais vous le remettre. Mais bon, je voudrais finir. Quelle heure elle est? Et c'est pour ça qu'il nous faut plusieurs. Il aurait fallu. Il faut à peu près 8 heures à 10 heures pour faire ce que je vous ai fait en 1h30. Mais quand même, je vais finir très vite. Après, je vous mettrai le texte. Après, juste après le Notre Père, après le jeûne, vous avez vu, on a vu un latertol, l'otegur, l'otegnur, ça veut dire ne tue pas, n'adulte pas, ne vole pas, ne ment pas. Jusqu'au sixième, pour le monde. La septième, c'était la prière. La huitième, c'est le jeûne. Le huitième commandement, donc aussitôt après votre prière, notre Père, il faut jeûner. C'est pour ça qu'il y a certains démons, certaines folies ne sortent qu'avec du jeûne et de la prière. La prière et du jeûne. Et quand vous jeûnez, il vous dit, faites-le en toute discrétion. Ce n'est pas la peine d'aller dire, ah, je jeûne. Non, il dit, mettez un petit peu de gras sur votre tête et votre visage pour apparaître que vous ne jeûnez pas. Et c'est comme ça que vous obtenez l'aide de Dieu. D'ailleurs, Jésus, il a jeûné juste après son baptême et il a combattu le diable. C'est pour nous, le jeûne, c'est le huitième commandement dans le sermon sur la montagne. C'est très important que vous preniez la globalité de ce sermon. Si vous prenez que le Notre Père ou que les béatitudes, vous nagez dedans. Mais si vous commencez à mettre d'abord les béatitudes, l'intercession, ensuite la responsabilité en tant que sel et lumière, ensuite les commandements de Jésus, ensuite notre Père, le jeûne, en huitième position, neuvième position, ne vous faites pas des trésors sur terre. Ça veut dire si vous avez des sous, n'allez pas construire sur terre, mais donnez ça aux pauvres et vous construisez au ciel. Aïkanogir dit ça ou smir. Si ma troune, ta moune ou off les prounes, là où il est votre trésor, là-bas il est aussi votre cœur. Si votre trésor est au ciel, votre cœur il est au ciel. Si votre trésor il est sur terre, ensuite, il dit, le dixième, personne ne peut adorer de Dieu. Donc il dit, n'adorez pas de Dieu, soit vous aimez l'un et vous détestez l'autre, mais vous ne pourrez pas aimer les deux au même degré. Vous ne pourrez pas adorer Mammon, enfin Dieu et Mammon en même temps. Mammon en araméen, ça veut dire la provision. Mammon, enfin le Dieu Mammon que vous connaissez dans la Bible, en araméen veut dire provision. Le Badlen, la provision, vos provisions. Ah, vous ouvrez le frigo, ah, il est plein, super. Vous ouvrez ici, ah, il est plein. Vous voyez, le compte en banque le matin, ah, yeah, c'est bon. Ça, c'est Momo, c'est-à-dire la provision en araméen. La veuve de Sarepta n'avait rien comme provision. Elle avait un petit sachet de blé, elle allait le faire et elle allait mourir. Voilà. Pourquoi il ne faut pas adorer de Dieu? Il continue, il dit, « Mais tout le hono omar de l'ochon Ne pensez pas à votre corps, quoi manger et quoi s'habiller. Votre Père qui est au ciel veille sur ça. Vous voyez, après, il va donner plein d'exemples. Vous voyez les fleurs des champs, le Seigneur les habille. Vous voyez, Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas eu ce qu'eux, ils ont. Donc, c'est pour ça qu'il dit, tournez tout en orienté vers Dieu. Oui, on revient au chapitre 1. La terre était désolée et désorientée. Donc, quand on commence à s'orienter vers la provision, vers Mammon, on n'est plus orienté vers Dieu. Après, il dit à la fin, le dernier passage, demandez d'abord le royaume de Dieu et la justice, la justice du royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné, mais avec. Il remplit par exemple ici du blé ou quelque chose et il va appuyer dessus, il va remettre, il va appuyer. Tosfin, ça veut dire il va vous donner au ras et appuyer, pas mettre comme ça, tiens, non, il va remplir. Le Christ nous dit, vous vous occupez du royaume, demandez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Ne pensez pas à demain, demain suffit à sa peine. Aujourd'hui suffit au mal qu'on va recevoir, aux épreuves qu'on va recevoir, de ce demain à demain. Donc voilà, il veut nous détacher. Voilà. Après 11, ne jugez pas pour ne pas être jugé. 11, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Donc sortez d'abord la paille de votre œil, d'abord la poutre de votre œil. Après vous allez voir la paille dans l'œil de votre voisin. Alors on est à la 11e et à la 12e, la dernière des dernières. Après il n'y en a plus. C'est, à votre avis, c'est quoi? Esdrar menenbi et dagolé. Méfiez-vous des faux prophètes qui vont venir vous voir avec des vêtements d'agneau et à l'intérieur ils sont des loups. Voilà. Il finit son enseignement par cette phrase. Donc après, extraordinaire. Donc on est sur la montagne, j'ai fini. On est sur la montagne, le Seigneur a fait son enseignement, il a enseigné à ses disciples le manuel de la sainteté. Donc si vous faites ça, ça y est, là, vous êtes au royaume. Mais pour faire ça, vous avez deux méthodes. Soit vous le faites en vous concentrant sur Matthieu 5, 7, et c'est extrêmement dur. Soit vous prenez toute la Bible, et c'est plus facile. Parce que là, vous nagez, c'est nage contre courant. Parce qu'elle est contre votre nature. Vous nagez contre votre nature. Donc là, vous allez vous exprimer avant d'arriver au bord. Mais si vous prenez toute la Bible, vous allez vous fortifier et vous allez éviter justement les courants forts. Vous allez arriver plus longuement, plus longtemps, mais vous y arrivez. Donc soit vous prenez la méthode courte, soit vous prenez la méthode longue. Et moi, je préfère la méthode longue parce qu'elle est beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus agréable. Est-ce que vous saviez que le verset, les trois lignes du chapitre 1 de la Genèse renvoyaient à votre baptême? Ça n'a rien à voir avec la création. Hein. Si vous prenez un jour, si je reviendrai dans quelques mois, je pourrais vous prendre Genèse 1. Ça n'a rien à voir avec la création. Tout a un à voir avec l'enseignement de Jésus. Vraiment, ça n'a rien à voir. Le premier, ça a à voir avec notre baptême. Le second, ça a à voir avec la pénitence. Le troisième, ça a à voir avec l'Eucharistie. Parce que, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la création. C'est le manuel, parce qu'en araméen, vous avez des mots qui vous expliquent. D'ailleurs, la Bible araméen s'appelle Pshita, ce qui veut dire la simple, la courante, la claire. Parce que vous n'avez pas besoin d'être professeur pour comprendre. Les mots sont simples. Vous lisez et vous comprenez. Ce que je vous dis là, c'est il ne faut pas être professeur. Il dit, si tu te mets contre ton frère sans obtenir une amélioration, ce n'est pas la peine. C'est beaucoup plus fort, sans raison. On a toujours une raison pour se mettre en colère contre quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, on n'avance pas. Là, on reste dans ce contre-courant. J'ai une bonne raison. Et hier, il m'a dit ça. C'est une bonne raison. Oui, mais est-ce que tu vas obtenir quelque chose? Est-ce qu'il va s'améliorer? Si oui, vas-y. Mais sinon, ne va pas. Vous voyez, c'est différent. C'est deux méthodes différentes. Et ça, c'est à travers l'écriture, à travers les mots, à travers l'enseignement. Donc voilà. Là, Jésus finit son enseignement et il descend de la montagne. Lorsqu'il descend de la montagne, des foules nombreuses l'ont arrêté. Jésus finit son enseignement, il descend de la montagne, et au pied de la montagne, il y a une foule immense qui l'a arrêté. Au pied de la montagne, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai mis en araméen exprès. Qu'est-ce qui va se passer? Ho garbo, voici un lépreux. Vous imaginez? Il monte à la montagne, il finit son enseignement de guérison, de sainteté. Et voici qu'une immense foule, des foules immenses, l'arrêtent au pied de la montagne, et c'est un lépreux. Pourquoi Matthieu, bon sang, il met ici ce lépreux? On était bien dans notre enseignement, et d'un coup, on voit un lépreux apparaître. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est écrit en araméen, et il veut nous renvoyer à quelque chose. Ce lépreux, Garbo, est venu et il s'est mis au pied de Jésus et il s'est mis à genoux devant Jésus. Il lui a dit, il prononce les mêmes mots de l'araméen, que ta volonté soit faite. Si ta volonté le veut, tu peux me purifier. Yeshua a étendu la main, Kreble, et il l'a posé sur lui, proche de lui. Wemarle, Sobeno, je veux, ma volonté est faite. Donc c'est le Père, c'est Abba le Père qui est là. Aboun Beshmayot, Kadal Shmur, Tifé Malkudur, Nehwe Sobionor, que ta volonté soit faite. Donc Jésus, à travers Jésus, qui a vu le Père. C'est le Père qui descend de la montagne et à ses pieds, il y a un garbo. Un garbo, ça veut dire un lépreux. Il dit, si tu peux, tu peux me purifier. Vous allez me dire, quel rapport avec notre Père? La purification, la sainteté, tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. C'est une perle. En fait, la Bible en araméen, c'est des perles. C'est un collier de perles. Donc ça, c'est une perle à côté d'une perle. Donc, garbo. Et donc Jésus, il tend la main et il dit, oui, je veux que tu sois purifié. Et à l'instant même, a été purifié sa lèpre. Voilà. Alors en araméen, pour comprendre quelque chose, voilà. Gabro, vous voyez, il y a le gamma, c'est extraordinaire, hein. Ça c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a qu'un araméen qui pourra vous le dire. Là, vous avez le mot gabro. Gamma, bêta, R et O. Oui, c'est les mêmes lettres. Derrière, vous avez le mot gabro, garbo. C'est les mêmes lettres. C'est quatre lettres. Vous avez les quatre lettres, c'est les mêmes. Vous les voyez les mêmes? Comme en français, G-A-R-B-A. C'est 5, mais juste il y a le A et le B qui sont inversés. Le B et le R ils sont inversés. C'est le même mot, mais deux lettres sont inversées. Vous remarquez ça? Garbo, gabro. Garbo, gabro. En araméen, c'est 4 lettres, en français, c'est 5. Garbo, gabro. Donc vous avez gabro, homme. Garbo, lépreux. Gabro, homme. Adam s'appelait Gabro, homme. Il est devenu Garbo, lépreux, et Jésus va le remettre. Il va réorienter les lettres. C'est pour ça, cet homme qui, au pied de la montagne, il se trouve devant Jésus à genoux, c'est Adam. Qui était devenu lépreux, Garbo, et qui est devenu Gabro. Vous avez compris ou pas? Vous avez la lettre G-B-R-A dans le mot homme et la lettre G-R-B-A ou B-O en fonction de la prononciation. D'accord? G-R-G-B-R-A G-R-B-O et juste la lettre B et la lettre R sont inversées. Donc Adam, en se désorientant, en mangeant le péché, son corps s'est désorienté, son corps est devenu une aberration, et Jésus va rétablir cette aberration. Et on passe du mot Garbo au mot Gabro. Et si nos péchés nous rendent Garbo, et en marchant avec Jésus, on devient Gabro. Ou Gabra. C'est parce que je prononce à l'anglaise. Enfin, en araméen, vous avez deux prononciations. Le A se prononce O, ou le A ou le O se prononce ou A se prononce A. Donc Gabra et Garba. Gabra et Garba. Voilà, j'ai fini. Donc devenez des Gabra, des hommes, pas des Garba, des lépreux. Voilà, si vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Sinon, on pourra prier.